Méfions-nous des étiquettes. Vous savez, ces petits cartons ou autocollants, ces marques, labels ou classements, ces légendes sous un produit ou sous une personne. Faut s'en méfier parce qu'elles sont trompeuses, les étiquettes, si ce sont des légendes. Vous savez que la légende en latin, c'est ce qu'on doit lire. En l'occurrence, on ne doit rien à personne. Alors méfions-nous des légendes et des étiquettes. Quand on nous dit « je suis de telle mouvance, de telle obédience », méfions-nous aussi des anti-étiquettes parce que c'est aussi une étiquette que d'être anti. Quand on te dit « je suis ni de droite ni de gauche, je n'appartiens à aucun parti », méfions-nous des indications de nature, de contenu et de prix. Quand on nous dit, pour simplifier, il y a les casseurs et les concitoyens, les affreux et les gentils. Si ça se trouve, c'est un petit peu plus complexe et il faut lire entre les lignes des étiquettes qu'on leur assigne. Méfions-nous, ça veut pas dire taclons, rejetons, disons systématiquement non. Ça veut dire qu'on peut encore s'interroger sur des mots qui ont un sens, une histoire, une résonance et qui parfois sont employés pour réduire ou pour masquer la réalité. Se méfier des étiquettes, à commencer par celles qu'on nous colle et qu'on accepte parfois malgré soi, c'est un acte de résistance. Tout ce qui refuse d'être figé, mis en boîte, étiqueté, relève d'ailleurs de la résistance. Parce qu'au lieu de simplifier, on pense.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui, il n'est pas du genre à se laisser enfermer dans une boîte. Depuis bientôt 40 ans, il bouscule, défie et s'amuse des codes, des étiquettes, de toutes les conventions. Il sera en concert le 2 décembre à l'Opéra Garnier avec son groupe mythique Culture Club pour célébrer la sortie de leur nouvel album Life qu'on attendait depuis 19 ans quand même. Bonjour Boy George.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Ce besoin d'enfermer les individus dans des boîtes, comment est-ce que vous l'expliquez, vous ?
I think that the world at the moment,
le monde en ce moment, on dirait qu'il fonctionne en circuit fermé. La culture moderne fonctionne en circuit fermé. Ça vient beaucoup de la télé-réalité et du fait que les héros de la télé-réalité dirigent le monde aujourd'hui. C'est quand même aberrant. Parce que la télé-réalité n'a quand même rien à voir avec la réalité.
Est-ce que vous diriez que cette tendance à la simplification, à la réduction, au formatage est plus forte qu'elle ne l'était dans les années 80, dont vous êtes quand même l'une des incarnations musicales les plus emblématiques ?
Quand je débutais dans le métier, tout était nouveau pour moi et tout me paraissait enthousiasmant et intéressant. Et à mesure que j'avance, je me rends compte qu'on me pose les mêmes questions qu'à mon dernier passage ici. C'est toujours les mêmes questions.
Et dans quelle case est-ce qu'on a essayé de vous faire rentrer, vous, Boy George ? À quoi est-ce qu'on a pu tenter de vous réduire ? Vous qui incarnez quand même depuis vos débuts une certaine forme de liberté, d'excentricité, d'anticonformisme.
Là, le nouvel album est sorti cette semaine, j'ai lu quelques comptes rendus, et il y en a qui se plantent, mais carrément. Ceux qui écrivent « Boy George recrée les années 80 ». Mais non, pas du tout. Moi, c'est les années 70, je suis un enfant des années 70, et cet album est complètement 70. Je suis comme Pelé, le footballeur qui a gagné 3 Coupes du Monde. J'assume mon passé, on ne peut pas me le retirer, mais ça ne m'intéresse pas. Ça fait partie de mon histoire. Mais si les gens pensent que je reste sur ce que j'ai été, sur ce que j'ai fait, ils se plantent. Et complètement.
Cette comparaison entre Pelé et Boy George me séduit totalement. Ce matin, comment on fait pour résister à cet esprit de formatage, de l'identité, à toutes les pressions que ça implique ? On gueule ?
On essaie de ne pas y penser. Quand j'étais plus jeune, si je lisais quelque chose qui me contrariait, ça me touchait plus. Aujourd'hui, en vieillissant, surtout avec Internet, parce que tout le monde est un critique aujourd'hui, tout le monde a un avis. Avant, dans leur salon, les gens insultaient leur écran de télé. Aujourd'hui, ils balancent leurs insultes sur Internet. Et on doit se taper n'importe quel commentaire à la con. Il faut arriver à surnager.
Mais vous, comment est-ce que vous avez fait pour ne pas vous laisser enfermer dans votre propre image publique ?
Les gens pensent peut-être que je reste enfermé dans mon image publique, mais mon travail, je le trouve assez singulier. La mode ne m'intéresse moyennement. Même si on me qualifie d'icône de la mode, je n'achète pas de choses coûteuses, je n'achète pas de griffes de luxe, je me fais faire des choses, je collabore avec des gens créatifs, j'essaie de créer de belles choses et de m'exprimer sans suivre les règles.
Mais ça vous est arrivé quand même de vous dire que ce qu'on retenait de Boy George, c'était pas sa musique, c'était son personnage public.
Très souvent, dans les années 80, on me disait « ton image fait de l'ombre à ta musique ». Mais pour moi, les deux ne sont pas distincts. Prenez n'importe qui dans ce domaine, Serge Gainsbourg, Bowie, Madonna, Prince, Brigitte Bardot, ils avaient tous une image distincte et reconnaissable. Quelque chose de fondamental qu'on n'oubliait pas. Pourquoi Marilyn Monroe est-elle inoubliable? Parce que son image est emblématique. Il faut avoir les deux. Avoir le look de David Bowie et la musique de David Bowie. C'est ça le but.
On va parler de musique avec vous, Boy George, et pas qu'un peu, pas avant d'avoir rafraîchi la mémoire de nos auditeurs, au cas où vous vous en souviendrez pas, ça m'étonnerait, c'est juste pour le plaisir, c'est juste pour moi, Boy George. C'était ça. Et puis c'était ça, évidemment. Et puis une dernière pour moi. Revenir avec un nouveau disque de Culture Club, de nouvelles chansons, quel sens est-ce que ça a pour vous? Il y a une forme de nostalgie.
Pour certains, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que quand je me lève le matin, je ne suis pas d'humeur nostalgique.
Et d'un point de vue purement musical, c'est une question que j'ai toujours voulu vous poser. Comment est-ce que vous décririez les années 80, Boy George? Vous dont les morceaux mélangeaient et mélangent encore plusieurs genres musicaux, du reggae au gospel à la country, en passant par la musique club.
Ce sont les années 70 qui ont créé les années 80. Et pour moi, c'est la décennie de folie. C'était la fin du rock progressif, du glam rock. Il y avait le punk, le reggae, l'électro, le disco. Tout ça s'était développé en même temps. Les années 80 sont vraiment l'aboutissement des 70s. Elles en sont le prolongement. Mais je ne crois pas que Culture Club résume particulièrement bien les années 80 musicalement. Peut-être en termes de look. Là, oui. Mais pas musicalement.
Et comment vous voyez l'évolution de la pop? C'est passionnant ce que vous dites sur l'histoire de la pop.
Mais pour moi, la pop, c'est pas du tout ce qu'on appelle pop aujourd'hui. La pop musique, pour moi, c'est les Arctic Monkeys. C'est Planning to Rock. De la musique à part, qui n'obéit pas à des recettes. On en est arrivé à une situation où n'importe qui pense savoir faire un disque de pop maintenant. Et tout le monde sort le même disque. Tout le monde veut être Adele. On vit une époque de suivisme. Nous n'avons pas besoin d'une deuxième Adele. Une nous suffit. On n'en veut pas 50.
And boy, we love her. Je vous ai parfois...
J'ai pas dit que je l'aime pas. Je dis qu'on n'en veut pas d'autre.
Pour autant, il y a bien des jeunes qui vous enthousiasment musicalement.
Oui, il y en a plein. Il y a beaucoup de groupes. Moi, je cherche souvent sur Internet des nouveautés. J'interroge mon public ou mes amis. La semaine dernière, j'étais en Allemagne et j'ai demandé ce qu'il y avait comme groupe allemand cool. Pas ce qu'on entend dans les charts, mais des trucs que je peux aimer comme Gurr ou ce mec super cool que j'ai découvert, Thomas Azier, qui n'est pas allemand mais qui habite à Berlin. J'aime découvrir de la musique nouvelle comme Fever Ray. La pop musique, pour moi, c'est des groupes comme The Knife, des trucs qui sont un peu à la marge. Parce que j'ai grandi dans les années 70, on écoutait Mark Bolan,
David Bowie,
Cockney Rebel. Des artistes assez décalés. Pour moi, la pop se doit d'être décalée.
Il y a des Français que vous aimez bien.
One of my favorite
Un de mes groupes français préférés, c'est un peu vieillot, c'est Lerita Mitsuko. Je les adore. J'aime les classiques comme Charles Aznavour, Edith Piaf.
Mais dans les jeunes,
Christine and the Queens, ils sont très connus en Grande-Bretagne. Mais je ne suis pas assez au courant sur la musique française.
Je vais vous apprendre.
Je vais me renseigner.
Au fond, c'est quoi une bonne chanson pour vous?
J'en sais rien. C'est très bizarre. Il y a des fois un genre musical que vous détestez, sauf une seule chanson, vous l'adorez et vous ne savez pas pourquoi. En Angleterre, on appelle ça un plaisir coupable. Tu ne devrais pas aimer, mais tu aimes. Mon plaisir coupable préféré, c'est The Right Stuff par New Kids on the Block. Je ne sais pas l'expliquer. Pour moi, ça le fait.
Celle qui écoute les New Kids on the Block dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, Boy George. Boy George, c'est la culture, évidemment, et son actualité, qui n'est pas bonne, mais mauvaise, comme la teigne, l'aide comme le péché, la culture qui n'est pas club non plus. Et depuis belle lurette, que se passe-t-il donc aujourd'hui?
J'adore lire, je lis beaucoup.
Il y a des bateaux qui sont bizarres. Moi, j'aime bien.
Montreuil à l'œil, la commune du 93 inaugure aujourd'hui la 34e édition de son salon du livre et de la presse jeunesse. Alors que la jeunesse représente 28% du marché du livre, soit 83,3 millions de livres vendus, l'événement s'organise autour du thème Nos Futurs, NOS. 250 créatrices et créateurs y sont attendus, notamment notre invité d'hier, Nicolas de Crécy. Seul ombre au tableau, la polémique autour de la présence de McDo qui distribue désormais des petits livres illustrés dans ses menus enfants. Et ça plaît pas du tout à Claude Ponty et pas qu'à lui. Vacances roumaines à Pompidou dans le cadre de la saison France-Roumanie 2019. Beaubourg propose tout un cycle d'événements artistiques incontournables. L'atelier Brancusi promet une plongée dans la création de l'icône de l'art moderne, tandis que l'expo La Blouse Roumaine fait dialoguer les œuvres de Matisse et du peintre Théodore Palladi. Enfin, le parcours Ponctuation propose une promenade dans l'art roumain grâce aux pièces de Mircea Cantor ou Victor Mann.
Il est l'or, Monseigneur.
Il en manque une.
Vous êtes sûr?
C'est l'or, Monseigneur, l'or de l'âge d'or. Hier, Cyril Pedrosa et Roxane Moreil ont remporté le prix Landerneau de la BD, décerné par les libraires des espaces culturels Leclerc. Leur bel album, L'âge d'or, publié par Dupuis, raconte l'exil de la princesse Tilda, chassée de son royaume par son jeune frère cruel, qui va partir à la rencontre de son peuple. Le jury a salué la luxuriance tout à fait unique de la bande dessinée et salue aussi une vraie chanson de gestes féministes. Ça, c'est chic, ça. Et mercredi d'étiquette ciné à la fête, car aujourd'hui dans les salles, on part en voyage à Yoshino, guidé par la délicate cinéaste japonaise Naomi Kawase. On prend les armes aux côtés des veuves de Steve McQueen, qui signe un film de casse féministe et musclé. Et sinon, on va droit au but avec Diamantino, le premier film hypnotique. Et Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes, signé Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt. Ça, vous y allez, vous me promettez ça. Boy George, invité exceptionnel de Boomerang ce matin, et on parlait tout à l'heure de l'éclectisme de votre musique. Dans quelle culture musicale est-ce que vous êtes né, vous ?
Quand j'étais môme, ma famille n'était pas particulièrement intéressée par la musique. Mon père était ouvrier du bâtiment, il devait souvent vider des logements et il revenait à la maison avec des disques. J'ai découvert ces vieux disques de jazz, Bessie Smith, Pearl Bailey, Dinah Washington, et puis ceux de mon frère aîné. Alice Cooper, Rod Stewart and the Faces, Bowie bien sûr.
Nous y voilà.
T-Rex, you know, and then sort of, you know, bands
like Led Zeppelin. Et puis des groupes comme Led Zeppelin, Deep Purple, tout ça. Et quand on est gamin, on n'a aucun discernement en musique. On adore tout ce qui passe.
Il paraît que vous avez un tatouage de David Bowie, Boy George, sur votre avant-bras, c'est vrai ou pas?
Oui, c'est vrai. Un grand tatouage.
Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous, Bowie, lorsque vous l'avez découvert?
Je me souviens d'avoir lu ses propos sur lui-même. Il disait « Je n'ai jamais été un prophète de malheur ou un sermonneur. » Et c'est vrai. Bowie a toujours été personnel dans son travail. Dans les années 70, quand j'étais môme, il a été la première rockstar à dire « Je suis bisexuel ».
C'était
énorme pour moi, énorme. J'avais 11 ans. Quand j'ai vu Ziggy Stardust.
And that resonated with me as a
gamin,
kid,
ça m'a marqué. Je n'avais entendu les mots queer et gay que dans la cour de récré, et ce n'était pas dit avec affection. Alors quand j'ai entendu Bowie chanter sur les gens queer et sur l'homosexualité, je me suis dit, ah, tiens, on peut en parler autrement. Et j'ai toujours été enthousiasmé par son travail quand il a sorti Where Are We Now. Je m'en souviens parce que ça a été une vraie surprise. Je me suis réveillé un matin et mon ami m'a appelé. Il y a une nouvelle chanson de Bowie. Je suis allé la trouver sur Internet et j'ai pleuré.
En fait, quel genre d'adolescent est-ce que vous étiez ?
J'étais, si vous demandez à ma mère, elle dira, théâtral. À fleur de peau. Dans les années 70, c'était comme ça qu'on nous décrivait. Si vous étiez gay, théâtral.
Flamboyant.
Né pour les projecteurs. Ou pour la mode.
Et à quoi ressemblait l'Angleterre de l'époque ?
Quand on parle des années 70, si tu lis l'autobiographie de Morrissey, t'as l'impression qu'il a vécu dans l'Angleterre de Dickens. Et moi, j'ai pas le souvenir d'une époque aussi morne, parce que j'étais jeune, je découvrais le glam rock et ma propre sexualité, je découvrais ma liberté d'expression, donc pour moi, les 70s étaient radieuses, bien sûr, avec beaucoup de problèmes politiques en Grande-Bretagne, toutes les grèves, les coupures de courant qui ont duré des mois, les poubelles dans la rue. De ça, je me souviens aussi, mais...
D'ailleurs, je me demande quelle relation est-ce que vous entretenez avec l'Angleterre, vous, qui, je le précise, est issu d'une famille irlandaise qui a beaucoup souffert, qui a combattu l'impérialisme britannique.
J'aime Londres. Et même tout le pays, c'est chez moi. C'est mon pays.
Mais l'irlandais, est-ce qu'il s'exprime encore en vous ?
Beaucoup. Et je viens de participer à l'émission télévisée Who Do You Think You Are, Retour aux sources, où je découvre mes racines irlandaises, que mon grand-père était membre de l'IRA en 1922. Il a été pendu par les Anglais sans aucun procès. J'ai remonté mon arbre généalogique pour découvrir beaucoup de choses sur ma famille. Et c'était fantastique d'apprendre tout ça sur mon histoire. Et là, j'ai l'impression que mon tempérament, il vient de là.
Mais musicalement, parce que j'ai eu beau écouter le nouvel album de Culture Club, j'ai pas vraiment trouvé d'influence celtique. Bah, genre, j'étais un petit peu déçu.
Bah, y a moi. C'est moi l'influence celtique. Ma mélancolie vient du côté irlandais. On a cette poésie élégiaque, ce lament. Et moi, je chante la tristesse, l'amour, les complications de l'existence. Mais aujourd'hui, pourtant, je ne me vois plus comme une victime.
Et puis, il y a l'idée aussi, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, qu'on est toujours déjà un outsider en tant qu'Irlandais.
Je suis peut-être irlandais, homosexuel, mais de plus en plus, je trouve que c'est ta pensée qui définit qui tu es. C'est pas ton look, ni ta sexualité, ni ta couleur de peau, ni ton âge. Vraiment, c'est ta façon d'interagir qui définit ta personne. C'est ce que tu penses qui est fort. Et je me vois comme un libre penseur. Si ça gêne les autres, j'ai envie de leur dire, qu'est-ce que vous en avez à faire ? Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce que je fais au lit ?
Contre quoi est-ce qu'il faut se rebeller aujourd'hui, Boy George ?
Le Brexit, pour commencer. On devrait se rebeller contre le Brexit. Et se rebeller contre l'accusation permanente des autres pour ce qui nous arrive. On vit dans une culture du rejet. Il faut se rappeler que ma mère est arrivée en Angleterre à la fin des années 50 et à la vitrine des pensions de famille, on pouvait lire « pas de noir, pas de juif, pas d'irlandais, pas de chien ». Depuis toujours, nous rejetons les autres. C'est pas nouveau. Ça existe depuis toujours, et je le sais parce que j'ai toujours été confronté à ça moi-même. Quand on est ouvertement homosexuel, on est sensible au regard des autres. Et je suis particulièrement sensible à ce qui se passe dans le monde en ce moment, parce que je le vis au quotidien. Et ce qui se passe dans le monde me passionne. Je ne sais pas où ce monde va. Et pour être sincère, je ne suis pas optimiste.
On va essayer de retrouver du sens ensemble alors.
Pardon d'être triste.
On va parler juste après Life, quand même, de tout ça. Le nouveau titre de votre dernier album avec Culture Club. Vous êtes sur France Inter avec Boy George. Vous écoutez Boomerang. Oh boy.
There's a train at the station that's ready to leave, and a perfect future just made for me. I let this stranger walk into my life, stepped out of the darkness back into the light. I know I'm crazy, but just a little sane. I get to take this ride again. You give me hope when I wake up to lift my head high and take what's mine. We look for laughter in the madness. You give me hope and you give me life. Will you let me breathe now while I find my truth? If I love myself, don't mean I don't love you. All of my chances are in my hand. Stepped out of the darkness, found out who I am. I know I'm crazy, but just a little sane. I get to take this ride again. You give me hope when I wake up to lift my head high and take what's mine. We look for laughter in the madness. You give me hope and you give me life.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il est égal à lui-même, hein, avec ses yeux de biche, vous savez, cernés de col, ses bagues, ses piercings, son traditionnel chapeau qui est turquoise. Aujourd'hui, on est quelque part entre un personnage d'Alice au Pays des Merveilles, le magicien d'un film de Tim Burton, et l'âme, la chanteuse, tout en col resserré ce matin. Boy George, invité de Boomerang pour le concert exceptionnel qui aura lieu le 2 décembre à l'Opéra Garnier. On vient d'écouter Life, qui donne son titre à votre album, et j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre voix. Quel instrument est-ce que c'est pour vous, la voix?
En fait, j'aime bien ma voix maintenant. Les gens me disent, ta voix est plus grave, elle est comme ci, comme ça. Ou ta voix, elle est rappeuse. Si vous réécoutez n'importe quel de mes premiers disques, ma voix y a toujours été rappeuse. J'avais une voix dans le nez, je chante maintenant de façon plus équilibrée. Il y a des choses que je peux faire avec ma voix que je ne pouvais pas faire il y a 20 ans. Il y a des choses que je ne peux plus faire alors que c'était possible en 82. Ce sont mes références jazz qui remonte aujourd'hui. Je suis devenu un chanteur de jazz et de blues.
C'est intéressant cette évolution parce que vous dites souvent que la voix, c'est le miroir de l'âme.
J'ai beaucoup écouté les grands chanteurs de jazz. Je voulais chanter comme eux. Je voulais chanter la souffrance.
Il faut toujours un peu de drame, sinon c'est pas drôle.
J'aime les chanteurs comme Bob Dylan, Leonard Cohen, Marianne Faithfull, Nico. J'aime l'imperfection.
Qu'est-ce qu'elle dit de vous, de votre âme aujourd'hui, votre voix?
Sur scène, moi, je cherche à susciter l'émotion. Récemment, je suis allé écouter Rod Stewart. Je suis un immense fan de Rod Stewart. Et je dois dire que c'était imparfait, mais d'une façon sublime. Voilà les chanteurs de soul que j'ai envie de suivre.
Vos imperfections, Boy George. Quand est-ce que vous avez su que vous saviez chanter?
Gamin, je chantais sans arrêt et on me disait « Oh, t'as une jolie voix ».
Ne me dites pas que vous étiez enfant de cœur, vous disiez que vous chantiez tout le temps.
On nous envoyait à l'église, mais juste pour débarrasser le plancher chez nous. On n'était pas obligés. Avec le catéchisme, on allait à l'église. Mais ce n'est pas là que j'ai découvert la musique. Vraiment, c'est par les disques que ramenait mon père, en les passant. et en y découvrant des pépites. J'ai un album de Pearl Bailey qui s'appelle Protect Me, et je l'ai toujours, et qui m'a fait découvrir le jazz. Elle était insolente, elle avait une chanson géniale qui s'appelait Je voudrais avoir du fric. Et moi, je la passais à fond tout le temps. C'était sa version de Je veux pas travailler. Elle m'a beaucoup influencé dans mon envie de devenir une rockstar.
Il y a quelqu'un d'autre qui vous a influencé plus que personne, peut-être. Alors on va l'écouter. À l'époque, j'avais les cheveux longs, du vernis noir, du maquillage, la totale. Un peu comme Boy George en ce moment. Ça me fait un petit coup de vieux de penser que je chante depuis tout ce temps. Enfin, je m'en sors pas mal pour 37 ans, non? Mais je pense que Boy George est parti pour durer. Ces choses-là se sentent. C'est sûr, Boy George va durer.
Freddie Mercury en 1984 qui parlait de vous, Boy George, et qui disait que vous alliez durer. Tiens, qu'est-ce que sa voix disait de son âme à lui?
J'avais déjà entendu cette interview et c'est tellement émouvant d'écouter quelqu'un que j'adorais quand j'avais 14 ans parce que j'étais obsédé par Queen et par Freddie en particulier. De l'entendre dire ça, c'était très beau. Il n'y a rien de pire que d'entendre quelqu'un que tu admires te casser. C'est ce qui fait le plus mal, de loin. C'était extraordinaire d'entendre ça. Chez moi, j'ai un disque signé par David Bowie. Pour George, avec toute ma tendre admiration.
Freddie,
c'était quelqu'un de spécial. Je me rappelle de l'avoir vu dans une interview après son concert à Rock in Rio. Il venait de jouer devant des centaines de milliers de gens et il répondait en disant « Moi, je suis comme une femme au foyer. » Un peu dédaigneux. Arrêtez d'en faire un plat, quoi. Ça, c'était Freddie. 100 000 spectateurs et lui, moi, je fais mon boulot. Freddie avait du mal avec le fait d'être un personnage public. Mais une fois sur scène, il n'avait peur de rien. En coulisses, il était très réservé et timide.
C'est quoi votre chanson de Queen préférée? Love of My Life. Vous savez qu'il y a un film sur la vie de Freddie Mercury qui vient de sortir en France et aux États-Unis. Vous l'avez vu?
Je ne l'ai pas encore vu. J'ai envie de le voir. Je connais Rami parce qu'on a fait une campagne Dior ensemble ici à Paris. Il a vraiment réussi à ressembler à Freddie et sa voix parlée est confondante. Parce que moi j'ai connu Freddie et là c'est sa voix, il parle comme lui. Je sais que le film a été critiqué. Mais en vérité, dans la vraie vie, Freddie n'a jamais révélé cette part de lui-même. Il n'avait pas envie de se dévoiler. Il n'avait pas envie que ça entre dans son personnage. Et donc, moi, ça me va. Ça ne change pas mes sentiments envers Freddie. Il était dans un groupe qui s'appelait Queen en 1974. Comment faire plus gay que ça? Quand j'étais gamin, je me disais, ce mec s'appelle Queen. Quand t'es gosse et que tu vis dans une culture répressive, les années 70, c'était une culture où il valait mieux ne parler de rien. Alors, des gens comme Freddie Mercury ou Bowie ou Mark Bolan, ils étaient nos porte-parole. Ils se permettaient ce qu'ils pouvaient, quand ils le pouvaient.
Mais vous aussi, aujourd'hui, vous parlez pour toute une génération. À quand un film sur Boy George? C'est ça la question, et quel en serait le titre?
Je ne sais pas. Si ces deux films sur Elton John et sur Freddie Mercury ont du succès, il y a une chance pour qu'on pense à moi. S'ils se plantent, ça ne se fera pas. Parce que ce sont des franchises qui s'alimentent entre elles. C'est très difficile de faire un film sur un artiste. Parce que ce n'est pas du documentaire. C'est impossible de tout mettre dans un film. Il y aura toujours des gens pour penser que vous avez été injuste. Je ne sais pas. Le cinéma, c'est de l'imaginaire. Et moi, je voudrais qu'un acteur stupéfiant, jeune et parfait, m'interprète à l'écran. Il y a un film très célèbre sur Quentin Crisp. Et il avait déclaré « J'ai toujours tellement échoué à être moi-même, je préfère que quelqu'un de plus jeune et de plus beau s'y essaye. » Parce que la vie, c'est de l'imaginaire. Surtout dans nos métiers. On n'a pas envie de savoir les trucs du magicien. On veut du rêve. Et le rock nous donne du rêve.
À propos de fantaisie, vous nous faites un cadeau quand même. Vous sortez pas de ce studio avant de nous avoir chanté quelque chose.
C'est tôt le matin là. Je sais pas quoi chanter.
You have to do these like.
Il faut que je me réveille. Personne ne chante le matin. Si on me dit « chante », j'ai envie de répondre « non, c'est comme aller au bureau ». Je connais rien en français, mais je peux tenter un truc en italien. Je recommence.
N'aria serena dopo una tempesta, per l'aria questa pare già una festa, che bella cosa una giornata sole. That's early voice.
C'est ma voix du matin.
Merci infiniment, Boy George, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Life, le nouvel album de Culture Club, vient de paraître et que vous serez en concert le 2 décembre au Palais Garnier. Merci à votre interprète ce matin, le délicieux Harold Boy Manning. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après, l'une de vos plus belles chansons, à mon avis, aux côtés d'Anthony and the Johnsons en 2005. Un cri que je fais mien ce matin. You are my sister.
You are my sister, we were born so innocent, so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. I was so afraid of the night. You seem to move through the places that I feared. You lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature.
You are my sister, and I love you. Of your dreams come true. You are my sister, and I love you.
So differently then, so similar over the years. The way we loved, the way we experienced pain. So many memories, there's nothing left to gain from remembering faces and worlds no one else will ever know.
Of my sister, and I love you. May all of your dreams come true.
You are my sister, Boy George, Anthony and the Johnson. Quelle beauté. Sonia De Villers, c'est à vous.
Yes, my
avec
brother.
L'instant M. Oh là là, yes, my brother. Allez là.
À demain.
À demain, Sonia.
Ciao.